Côté de la musique, une proposition de Michel Giardella. On parle de musique classique, mais quand on dit de l'autre côté de la musique, ça ne signifie pas simplement une exclusivité côté classique, ce qui nous laisse aussi des portes pour laisser un paysage assez large s'ouvrir. Bonjour Michel.
Bonjour.
Et c'est toujours avec une thématique, un compositeur, que nous allons bien proposer cette émission. Et ce mois-ci, c'est un compositeur tchèque. Tchécoslovaque à l'époque, on disait même.
Oui.
C'est bien ça.
Un bohémien.
Un bohémien, oui. C'est littéralement bohémien.
Bohémien, oui.
D'où, en fait, cette région de Bohême, un peu au nord de Prague, ce qui a laissé peut-être présager une carrière itinérante pour ce jeune prodige musicien qui n'était pas véritablement prédestiné à de la musique classique.
C'est bien sûr. Oui, pas tout à fait, mais bon, c'est la vie. Hein.
Alors, ne faisons pas plus de mystère autour de ce compositeur né en 1841, le 8 septembre, à Nelauzeves, donc à 40 km de Prague. Il s'agit de...
Anton Dvorak.
Anton Dvorak. Avec, on le rappelle aussi, une orthographe qui diffère un peu de la prononciation. Souvent, on voit Dvorak.
Dvorak, voilà. En réalité, il y a des accents circonflexes sur le A et sur le R. C'est compliqué.
Alors, pour aborder cette carrière, une existence assez singulière, comment on pourrait s'y prendre pour présenter ce compositeur, Michel?
Je crois qu'il y a deux grands moments dans sa vie. Il a vécu donc à Prague. Il a aidé à la constitution de l'opéra tchèque. Parce que c'était une zone sous domination autrichienne, l'Empire austro-hongrois, et il a commencé à émanciper, dans un mouvement général de fin du XIXe siècle, la libération un peu des peuples, des minorités, des nationalités, et il a fait partie de ce moment-là, de ce mouvement-là. On peut peut-être commencer par nous mettre dans la situation avec sa première danse slave.
Voilà, une véritable marque de fabrique de Anton Dvorak.
Thank you.
Les danses slaves de Anton Dvorak qui donnent, on peut dire, un côté un petit peu de son paysage natal. Voilà. Avant d'aborder d'autres styles de musique, Anton Dvorak a pratiquement balayé toutes les composantes de la musique classique, presque toutes.
Presque toutes. Il a composé, bien sûr, 9 symphonies. Il a composé des poèmes symphoniques, il a composé des opéras, et il a quand même une musique de chambre très riche. Il a composé une douzaine de quatuors à cordes, des quintettes, etc. C'est un grand compositeur qui est très, très, très riche et très fourni, hein. C'est pas un compositeur de seconde zone, hein. D'autant plus que, on vient d'en parler, il a été très ami avec le plus grand musicien allemand de l'époque, qui était Johannes Brahms, qui était à Hambourg. Donc, ils ont eu énormément de relations, et Brahms admirait Dvorak.
Voilà une période qui a fait suite après sa perte de Prague, où il a commencé à prendre de l'ampleur avec justement son amitié avec Brahms, des bourses, et commence à un compositeur reconnu.
Reconnu, et il a été, grand tournant de sa carrière, invité aux États-Unis, où il est resté quelques années, et là, il nous a produit des choses extraordinaires, hein. Tout ce qui est américain, quel nom américain, il l'a fait aux États-Unis.
Et notamment cette pièce maîtresse, hein, qui est un peu ce qui a émergé, en tout cas, ce qu'on voit de sa carrière, hein, cette symphonie.
Cette symphonie du Nouveau Monde.
La symphonie du Nouveau Monde. Alors, pour donner un certain reflet de cette composition, on a fait le choix de ne pas présenter véritablement le côté orchestral qu'on connaît, mais sous un autre aspect plutôt contemporain, cinématographique, et notamment la patte aussi de John Williams à travers ce film Star Wars, La Guerre des Étoiles, où on retrouve pour 2 minutes un côté très hollywoodien qui confère à cette symphonie du Nouveau Monde la grande musique, hein, qui résonne dans les grands films aussi américain.
Yeah.
Et voilà un reflet de cette symphonie du Nouveau Monde, pièce maîtresse de ce compositeur Anton Dvorak, composé dans sa période new-yorkaise, alors qu'il était directeur du Conservatoire National de New York. La 9e symphonie aussi que l'on appelle, alors je ne sais pas si c'est dans un ordre véritablement chronologique, mais a priori...
Oui, c'est sa dernière. Hein.
C'est sa dernière symphonie qu'il a composée. Il y a toujours eu aussi dans la chronologie des compositions quelques confusions dans les opus qui succèdent.
Oui. Pendant très longtemps, on a dit que cette symphonie du Nouveau Monde était la 5e. Ah. On avait occulté 4 symphonies qu'il avait écrites jeunesse. En réalité, maintenant, ça a été rangé et c'est la 9e. D'accord. Beaucoup de compositeurs, d'ailleurs, ont écrit 9 symphonies. Hein. Et il y en a certains qui ont hésité en disant après la 9e, voilà, et en particulier Mahler, quand il a écrit il avait encore une symphonie à écrire, et il n'a pas voulu l'appeler symphonie, il l'appelait les chants de la terre, hein, mais c'était normalement sa 10e symphonie, mais il a été superstitieux, il n'a pas voulu l'écrire. Voilà, donc on reste au 9e.
On reste au 9e avec ce Nouveau Monde, et puis... notamment avec cet opus qui a été aussi un moment assez, comme on disait, assez confus pour structurer toute sa carrière dans la chronologie. Un monsieur, a priori, s'est attelé à tout classifier. Il s'appelait Burgos. Voilà, c'est pour ça qu'on voit un B à chaque... avant chaque opus. Signifier que c'est lui qui a un petit peu signé cet aspect chronologique.
Cette organisation.
L'organisation de ses œuvres
dans le temps.
Voilà. Parce qu'il y a eu beaucoup de, outre les symphonies, beaucoup d'autres domaines qui ont été envisagés par ce compositeur tchèque. Et là, nous allons bien arriver dans peut-être des contextes plus intimistes, on pourrait dire, Michel ?
Un peu plus intimiste, bien que ce soit composé quand il était aux États-Unis. Hein. C'est encore une œuvre américaine. Hein. Il a été composé. C'est son concerto pour violoncelle. Hein. Alors moi, j'ai été un peu un privilégié. J'ai eu la chance de l'entendre à la salle de Kolarac à Belgrade. Et il y avait un violoncelliste français qui était venu, qui s'appelait Pierre Fournier, un très très grand violoncelliste, et ce violoncelliste, enfin excusez du peu, mais Rostropovitch disait que c'était son dieu, c'était son idole.
Oui, ça c'est
impressionnant.
Impressionnant.
Voilà. Hein. Alors on va l'écouter. C'est une œuvre très romantique et c'est la pièce que tous les violoncellistes dans leur carrière rêvent de jouer. C'est le plus grand morceau pour le violoncelle qui existe. Alors, on va écouter donc le 2e et le 3e mouvement de ce concerto pour violoncelle de Dvorak.
Et bien voilà, c'était deux titres qui reflètent bien la facture musicale de Anton Dvorak.
Oui.
Alors, ça a été pour vous aussi des souvenirs, Michel Giardella,
oui,
concernant Dvorak et puis
Pierre Fournier,
que vous avez donc à Belgrade
eu l'occasion
de le voir.
Oui, il est venu, donc il jouait justement ce concerto, et c'était quand même le voir entrer sur scène. Il avait été frappé enfant par la poliomyélite, et il arrivait en boitant, et un peu le violoncelle, on avait l'impression que c'était sa canne. Mais quand il s'était mis au violoncelle, alors là... Tout avait disparu et c'était un enchantement. Hein. Et puis le soir, je l'ai revu. Alors, j'avais été invité à une soirée, puisqu'en son honneur. Et il racontait, c'était quelqu'un de très modeste. Et il n'a jamais parlé de lui. Il a parlé d'un collègue, Pablo Casal, qui était un grand violoncelliste catalan. Et il racontait à tout le monde que Pablo Casal, lui, tous les jours... Il a joué une suite de Bach toute sa vie. Il jouait la première le lundi, le mardi la seconde, le mercredi la troisième, jusqu'au samedi. Donc les suites de Bach, il les jouait. Et le dimanche, celle qu'il avait préférée de la semaine, il se la rejouait. Et il a fait ça toute sa vie.
Allez.
Impressionnant, hein. La rigueur morale qu'il faut pour,
ah ouais, là,
pour s'obliger.
Une adoration sans faille.
Oui, ah, tout à fait.
Pour Pablo Casal, eh bien donc justement un petit peu ce qui donne une certaine continuité avec les œuvres de Dvorak. On peut aussi eh bien évoquer, on a donc parlé eh bien de toutes ses composantes au niveau eh bien des styles abordés. On peut dire qu'il a tout fait excepté le ballet.
Le ballet, voilà. C'est une...
Mais sinon, effectivement, voilà. Aussi, dans sa carrière, ben, c'était, outre les danses slaves, bien sûr, les symphonies, les Ave Maria.
Alors oui, et puis il a écrit de la musique religieuse, deux très belles pièces, hein. D'abord un Requiem splendide, et il a écrit un Stabat Mater. Ça a été un peu bouleversant, parce qu'il a eu trois enfants qui sont morts, hein. C'était une époque où il y avait eu des décès infantiles, hein, des enfants. Bon, et il avait été très touché par ces décès. C'est à ce moment-là qu'il a écrit ce Stabat Mater, qui est quand même une œuvre de douleur, par définition. Ben, je vous en propose, parce que c'est un morceau qu'on entend très rarement. C'est, bon, autant on peut sortir des sentiers battus. Hein. Mm-hmm. Et donc, je propose la fin du Stabat Mater de Dvorak.
Et voilà, nous arrivons au terme de ce Stabat Mater par la composition de Anton Dvorak, Antonin Léopold Dvorak, pour prononcer littéralement son nom. Mais merci beaucoup, Michel Gerdelab, de nous avoir fait partager, on peut dire, ses principales facettes de ce compositeur. que vous avez pu voir aussi par des violoncellistes assez renommés sur scène pour interpréter ses principales œuvres. On se retrouve prochainement pour un autre composant de la musique classique, en tout cas de l'autre côté de la musique, si on peut dire, avec bien entendu un thème à découvrir sur différents chemins. C'est pas ce qui manque en musique classique pour faire résonner des thèmes.
C'est pas ce qui manque, pas du tout. Au revoir.
Au revoir, à bientôt.
À bientôt.